L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
Bienvenue, voici l'actualité de la semaine vue par les partenaires des médias francophones publics, RFI, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, ici et enfin la RTBF. Avec aujourd'hui encore les suites de la récente investiture de Donald Trump, la Suisse est notamment touchée, des ONG sont privées de financement américain. Pierre-Anne Chauffal, le canton de Genève entend voler à leur secours.
Les ONG qui gravitent autour de la Genève internationale représentent 3500 emplois directs. Alors que les premiers licenciements collectifs sont annoncés, l'État de Genève est prêt à soutenir provisoirement les emplois menacés.
On notera aussi cette semaine cette nouvelle salve tarifaire de Donald Trump. Il impose des droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium dès le 12 mars pour tous les pays et notamment son voisin canadien, Nadi Mobarak.
Oui, et ce malgré un sursis accordé au Canada la semaine dernière. Le Premier ministre Justin Trudeau promet une réponse claire et ferme.
François Bayrou empêtré dans le scandale de Betarame, des violences sexuelles dénoncées au sein d'un établissement scolaire des Pyrénées-Atlantiques depuis de longues années. Le Premier ministre français et ancien ministre de l'Éducation affirme qu'il n'en savait rien. L'affaire judiciaire s'est muée en affaire politique. En Belgique, beaucoup de monde dans les rues de Bruxelles ce jeudi. Sabine Brulé, 60 000 manifestants réunis pour dénoncer les mesures du nouveau gouvernement fédéral.
Oui, 60 000 manifestants selon la police, mais 100 000 selon les syndicats qui avaient organisé cette mobilisation pour la défense des pensions et des services publics, notamment. Le mouvement aura provoqué pas mal de perturbations dans les transports en commun, notamment.
Enfin, au Sénégal, la Cour des comptes a rendu son rapport définitif sur la gestion des finances publiques sous l'ancien président Macky Sall. Et Nicolas Sûr, il est très sévère.
Oui, elle pointe une série de manquements et surtout une dette colossale. Le nouveau pouvoir annonce des enquêtes. L'équipe sortante dénonce une machination.
Le régime minceur imposé par la nouvelle administration américaine a donc des répercussions immédiates en Suisse, Pierre-Anne, et plus précisément au sein de la Genève internationale.
Oui, c'est le gel pour 90 jours du programme USAID qui impacte directement les organisations internationales et les ONG actives dans l'humanitaire. Il faut dire que tout ce secteur est très dépendant des financements américains. Et si les organisations non gouvernementales ont l'habitude de s'adapter à la variation des aides financières, la fermeture brutale du robinet les met dans une situation plus que périlleuse. Certaines ont déjà annoncé cette semaine des licenciements collectifs à l'Office genevois de l'emploi.
Alors la Genève internationale est évidemment un atout pour la Suisse. Les ONG peuvent-elles espérer de ce côté-là?
La réponse est clairement non pour la ministre des Finances, Karine Keller-Souter.
Je crois que ce n'est pas le rôle de la Suisse de maintenant combler les lacunes qui seront créées ou qui sont peut-être créé par les États-Unis, c'est même pas possible. Aussi, le Parlement a coupé quand même dans l'international.
Le Parlement suisse qui a en effet biffé 100 millions de francs dans l'aide au développement pour cette année. Mais les ONG qui gravitent autour de la Genève internationale, ce sont tout de même 3500 emplois directs et des retombées économiques en milliards chaque année. Sans vouloir pallier le défaut des pays donateurs, le canton veut donc leur venir en aide en garantissant les salaires pendant les 3 mois du gel de l'aide américaine. Une mesure nécessaire pour ses employés, selon la ministre genevoise en charge de l'économie, Delphine Bachmann.
Je les préfère en emploi, en train de travailler, à la recherche de fonds complémentaires, à leur donner cet espace en fait, de stabilité 3 mois encore pour essayer de savoir où on va aller. Vous savez, on est dans une situation d'urgence et je pense que c'est aussi notre rôle que de savoir eh bien, prendre des mesures, certes pas parfaites, mais qui permettent de pallier l'urgence de la situation.
Une mesure transitoire donc, chiffrée à 10 millions de francs pour permettre aux ONG de se retourner et peut-être aux États-Unis de reprendre leur financement au moins partiellement.
Les États-Unis qui sont par ailleurs passés de la parole aux actes lundi dernier, Donald Trump a signé un décret qui impose des droits de douane de 25% sur toutes les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis. Ça concerne tout le monde, sans exception, dès le 12 mars, Nadi.
Oui, et ce développement est survenu exactement une semaine après le sursis d'un mois accordé par Washington à Ottawa sur des tarifs de 25% déjà imposés sur tous les produits provenant du Canada pour l'inciter à mieux lutter contre le flux de migrants clandestins et le trafic de fentanyl à sa frontière. Autrement dit, dès le 12 mars, l'aluminium et l'acier canadien pourraient être touchés non pas par des droits de douane de 25%, mais carrément de 50%. Fait à noter, le Canada représente le principal fournisseur d'acier et d'aluminium des États-Unis.
Alors, comment réagit le gouvernement canadien ?
Eh bien, le Premier ministre Justin Trudeau reconnaît que ces menaces de tarifs suscitent énormément d'inquiétudes pour les Canadiens. Il affirme du même coup que le travail continue, notamment en coulisses, pour faire comprendre à l'administration Trump que les États-Unis vont aussi subir les conséquences de telles mesures.
On va répondre de façon équivalente et forte.
De son côté, le ministre fédéral des Finances, Dominique Leblanc, a rencontré mercredi le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick.
On a partagé nos inquiétudes quant à la question des tarifs douaniers sur le secteur d'aluminium et de l'acier. Et on a conclu avec l'idée qu'on allait maintenir le contact dans les prochains jours.
Les deux hommes se sont entretenus en personne à Washington.
Et le ministre Leblanc, qu'on vient d'entendre, n'était pas le seul homme politique canadien présent dans la capitale américaine cette semaine, Nadie.
Effectivement, 11 des 13 premiers ministres des provinces et des territoires ont passé plus d'une heure à la Maison-Blanche mercredi pour discuter avec deux proches conseillers de Donald Trump. Un rendez-vous imprévu qui a bousculé le programme du Conseil de la Fédération, qui était en mission à Washington pour tenter d'éviter au Canada l'imposition de tarifs américains sur ses exportations. Selon le premier ministre du Québec, François Legault, la menace tarifaire est toujours bien réelle. À son avis, le Québec devra s'adapter à une nouvelle réalité.
L'économie du Québec ne sera plus jamais comme on l'a connue, comme on la connaît actuellement. Donc, il va falloir être capable de se diversifier.
Le premier ministre Legault demande une renégociation rapide de l'entente de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique et s'attend à retourner à Washington prochainement.
L'accent des autres.
François Bayrou, empêtré dans cette affaire d'abus sexuels à Notre-Dame de Bétarame, c'est près de Pau dans le sud-ouest, et c'est l'une des informations de la semaine en France. Le maire de Pau et Premier ministre, qui a aussi été dans le passé ministre de l'Éducation nationale, est pointé du doigt pour avoir gardé le silence sur ces affaires en connaissance de cause. Des accusations formulées par le journal en ligne Mediapart. Il y a eu des dépôts de plainte, plus d'une centaine, et cette affaire judiciaire est devenue forcément une affaire politique. Elle a migré vers les bancs de l'Assemblée nationale, Flore Catala.
L'Assemblée où François Bayrou n'est plus seulement soupçonné d'avoir gardé le silence, mais où il est désormais accusé d'avoir menti. C'est le député LFI Paul Vanier qui a pris à partie le Premier ministre. Et François Bayrou a démenti. J'affirme que jamais je n'ai eu la moindre information, persiste le Béarnais, qui pour se défendre argue à chaque fois que s'il avait su, il n'aurait tout simplement pas scolarisé ses enfants à Bétarame. Les socialistes se sont eux aussi emparés du sujet. Trois députés PS des Pyrénées-Atlantiques ont écrit un courrier à François Bayrou pour lui demander de dire la vérité, alors que les insoumis, eux, appellent à nouveau à sa démission.
Flore Catala pour Ici Béarn Bigorre. Alors une manifestation s'est par ailleurs tenue cette semaine devant l'établissement concerné et Marion Aquilina y était.
Bétarame, même Bayrou savait. C'est ce qu'on peut lire sur les pancartes préparées par les manifestants comme Suzanne qui réclame la fermeture de l'établissement scolaire.
Bah là on vient de faire un collage contre le mur du collège. 50 ans de déni, 112 plaintes pour des violences contre les enfants.
Fermez Bétarame ! Soutien aux victimes !
Soutien aux victimes !
Derrière le mégaphone, c'est Arnaud Gallet, le cofondateur de Move Enfants, à l'initiative de cette manifestation. Juste après son discours, il a été interpellé par des élèves de Bétarame.
L'établissement, il est sous contrat non pas avec le bon Dieu, mais avec l'éducation nationale, ça c'est la première chose. Et que l'éducation nationale ne réagisse pas, c'est inacceptable. Comment se fait-il que quand il y a 112 plaintes, donc de personnes qui étaient enfants...
Elles sont dans les mains de la justice maintenant. Donc c'est le procureur qui... Il faut aller voir.
Ouais, mais
sauf pourquoi vous n'allez pas manifester devant chez lui ?
On vient juste coller des lettres. On est là aussi pour que ça éveille la discussion. Et la preuve, c'est bien que vous réagissez, etc. Mais en réalité, on ne fait pas grand-chose.
Ça, c'est l'image qu'ils ont eue à l'ancienne. De nos jours, c'est plus pareil. Faut pas rester... Ok, il y a eu des trucs, c'est peut-être pas pardonnable, mais il faut arrêter avec cette image-là. On est depuis la 6e, tout s'est bien passé.
Ces enfants subissent une polémique qui n'est pas la leur. C'est agacé un parent d'élève qui souhaite rappeler qu'aujourd'hui, la direction de l'établissement a changé.
Marion Aquilina pour Ici Béarn Bigorre. Cette importante mobilisation à présent, jeudi dernier à Bruxelles, pour dénoncer les mesures prises par le nouveau gouvernement fédéral belge. Sabine, une manifestation était organisée à l'appel des syndicats.
60 000 personnes ont défilé, selon la police, 100 000 d'après les syndicats. Une mobilisation importante pour s'opposer au gouvernement qui veut notamment supprimer les régimes spéciaux de pension. Aujourd'hui, les militaires ou les cheminots peuvent partir plus tôt à la retraite. À l'avenir, ce ne sera plus le cas. Pour le patron du syndicat socialiste, tout est cadenassé et ce sera 67 ans pour tout le monde.
Quand on regarde et qu'on additionne toutes les mesures qui sont dans l'accord de gouvernement, il n'y a plus moyen de partir avant 67 ans. Vous ne pouvez pas demander à un policier, à une infirmière, à quelqu'un qui court derrière le camion poubelle à 30 ou 40 ans de le faire jusqu'à 67 ans. Et je vous assure, il n'y a plus aucune solution d'arrêter avant 67 ans.
Mobilisation sur le thème des pensions, mobilisation aussi pour défendre le pouvoir d'achat et pour défendre aussi les services publics malmenés, comme le souligne la responsable du syndicat chrétien.
Il y a une forme de mépris pour les travailleurs des services publics, comme s'ils étaient ceux qui coûtent et pas ceux qui tiennent la société debout. Il y a un écart grandissant entre une vision un peu théorique du monde du travail et les conditions réelles, effectives, quotidiennes de travail aujourd'hui.
Cette manifestation n'aura été qu'un premier avertissement. Les syndicats annoncent un long bras de fer avec le gouvernement. Ils promettent un marathon social. Une grève générale est déjà annoncée pour le 31 mars prochain.
Enfin, les finances publiques du Sénégal sont dans une situation alarmante. C'est la principale conclusion du rapport définitif de la Cour des comptes sur la gestion de l'argent public entre 2019 et mars 2024. C'est en fait la période qui couvre le deuxième mandat de l'ancien président Macky Sall. Le document était très attendu et Nicolas, il révèle de nombreux manquements et d'abord un endettement record.
Plus de 18 000 milliards de francs CFA de dette, soit 99,67% du PIB. C'est largement supérieur à ce qu'avait déclaré le régime sortant, supérieur aussi aux prévisions déjà alarmantes du Premier ministre Ousmane Sonko, qui avait accusé ses prédécesseurs de mentir sur les chiffres. Conséquence, des dettes colossales à rembourser et une marge de manœuvre quasi inexistante pour mettre en œuvre le programme de développement promis par le nouveau pouvoir.
Oui, et cette photographie des finances publiques sur les 5 dernières années révèle aussi d'autres manquements en matière de gestion des finances publiques.
Oui, des dépenses autorisées en dehors du circuit du trésor public avec la création de comptes spéciaux, mais aussi des ressources extérieures qui n'étaient pas inscrites dans la loi des finances, des transactions nébuleuses. Le ministre de la Justice annonce l'ouverture d'enquêtes sur de possibles délits financiers. Du côté des partisans de l'ancien président Macky Sall, l'ex-ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, dénonce une machination et un contre-feu du gouvernement qui ne pourrait pas tenir ses promesses de rupture. Un autre s'interroge. Qu'a donc fait la Cour des comptes à l'époque, pendant la période sur laquelle elle est aujourd'hui si sévère?
Nicolas Sûr et RFI pour refermer l'accent des autres. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve, si vous le souhaitez, la semaine prochaine, au même moment, pour un nouveau numéro en compagnie des médias francophones publics. Excellente fin de semaine.